Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Bonjour Daniel Roche, vous êtes professeur honoraire au Collège de France, où vous avez enseigné l'histoire de la France des Lumières entre 1999 et 2005. Votre leçon inaugurale a été prononcée le 19 novembre 1999. Vous avez travaillé sur l'histoire culturelle et sociale de la France d'Ancien Régime et vous avez entrepris vos premières recherches dans les années 60 pour combattre l'ennui.
C'est vrai, parce que j'étais à ce moment-là professeur au lycée de Chalon-sur-Marne. J'ai fait, comme on faisait tous, un stage d'enseignement secondaire, qui n'était pas celui d'aujourd'hui, il faut dire. On y était relativement bien. Mais simplement, comme j'étais tout seul en Champagne, le soir, dans l'après-midi, je m'ennuyais. Alors j'allais aux archives départementales et je me suis trouvé devant des archives extrêmement intéressantes et j'ai continué comme ça. Mais au début, je savais pas que j'allais faire une thèse avec ça. C'était la découverte d'un gisement de textes, d'archives et de tas de choses qui en découlaient. Mais je pensais pas, immédiatement, je ne pensais pas que ça donnerait une thèse.
Vous vous êtes intéressé donc à ce moment-là aux académies provinciales du XVIIIe siècle, sur lesquelles justement donc vous avez soutenu votre thèse sous la direction d'Alphonse Dupron.
Dupron était un mage, Dupron était un personnage assez fascinant, qui ne parlait pas beaucoup, qui ne vous embêtait pas du tout dans une direction de thèse. Il suffisait d'avoir avec lui des relations polies et amicales et ça se passait bien.
Alors, cette enquête que vous aviez conduite à cette époque a été publiée sous le titre « Le siècle des Lumières en province, académie et académiciens provinciaux 1689-1789 ». C'est d'abord paru chez Mouton, puis ensuite publié par la Maison des sciences de l'homme en 89. Et vous démontrez dans cette thèse l'influence qu'ont exercé donc ces petites académies de province. Je dis petites, mais d'ailleurs elles n'étaient pas toutes petites en réalité, certaines étaient de grandes académies, l'influence qu'elles ont exercée pour élever le niveau d'éducation et de culture un peu partout, et ce, dès la seconde moitié du XVIIe siècle, Daniel Roche.
Alors, la question qui était posée en quelque sorte était de sortir du modèle de la monographie urbaine qui s'était ou de la monographie localisable qui s'était multipliée dans les années précédentes, dans les années 50-70, et les grands patrons de l'histoire de ce moment-là, de Dupron à Braudel, de Braudel à La Brousse, et j'en oublie, ils me pardonneront, se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passait sur l'entièreté du royaume. Donc, le fait que j'avais découvert des archives et le fait que la question agitait en quelque sorte le milieu intellectuel qui se posait le problème de, on va dire ça simplement, est-ce que les Lumières sont bourgeoises ? Voilà une question qui était posée, on peut dire, tout le temps et qui recevait, en particulier du côté des historiens influencés beaucoup plus que moi par Karl Marx, elle recevait une réponse, oui, les Lumières, c'était l'affirmation de la bourgeoisie. Alors ça faisait partie, retrouver ces sociétés dans leur contexte local faisaient partie d'une, en quelque sorte, d'une ambition intellectuelle plus générale, avec d'un côté une méthode, qu'est-ce que c'est que la sociologie des mouvements intellectuels, et de l'autre côté, est-ce que les Lumières correspondent à quelque chose de précis. Alors pourquoi le point de départ? Eh bien parce que au milieu du XVIIe siècle, les grandes monarchies, et plus particulièrement la monarchie française, ont lancé le mouvement académique à peu près partout.
Mais dès Louis XIII déjà.
Oui, l'Académie française a commencé à fonctionner à l'époque de Richelieu et de Louis XIII, mais on peut dire que son ampleur, tant dans le pays qu'à l'extérieur, ne s'est affirmée qu'avec le règne de Louis XIV et après, bien entendu. Et il en va à peu près de même des deux autres grandes institutions scientifiques parisiennes, l'Académie royale des sciences et l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, qui se sont, elles, développées dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors, ces grandes sociétés parisiennes étaient dépendantes totalement du gouvernement royal, c'était des institutions monarchiques qui recevaient des lettres patentes qui étaient créditées et financées par le gouvernement monarchique.
Et surveillées ?
Surveillées, oui, mais je crois qu'il y avait une certaine indépendance quand même qui était possible, qui a permis à certains de jouer parce qu'ils étaient du côté du pouvoir, mais ils pouvaient aussi dire ce qu'ils pensaient autrement. C'est un sujet, oui, la censure qui pouvait s'exercer sur elle, mais c'était par définition, parce que dans les statuts de toutes ces sociétés, provinciale ou parisienne, il y a trois choses dont on ne doit pas parler. C'est Dieu, de Dieu, c'est du roi et c'est des mœurs. C'est écrit en toutes lettres et ça l'est encore dans les statuts de l'Académie française.
Donc vous voulez dire, Daniel Roche, que si on ne parle pas de Dieu, du roi ni des mœurs, au fond on est tout à fait libre dans ces académies de dire ce qu'on veut.
À l'intérieur de l'Académie. Parce que la société d'Ancien Régime ne reconnaît pas la liberté d'association. La liberté d'association, elle peut exister que si le roi l'accorde. Donc c'est un privilège, c'est dans le régime des privilèges que des sociétés parisiennes d'abord et des sociétés provinciales ensuite, mais pas toujours, il y avait déjà des cercles provinciaux qui existait depuis fort longtemps, mais qui était très spécialisé. Par exemple, l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. C'est une académie qui existe encore, qui a encore ses concours, qui a encore toutes ses traditions. Ben, elle existait dès la fin du Moyen-Âge, mais avec une particularité très précise, c'est qu'elle devait couronner des travaux en poésie languedocienne et plus particulièrement des travaux sur la religion et les choses comme ça, quoi.
Vous allez travailler avec Labrousse. Alors Labrousse avait succédé donc à Marc Bloch à la Sorbonne après-guerre. Donc c'est, on pourrait dire, une transmission quasiment directe, Daniel Roche.
C'est dès mon mémoire de maîtrise, comme on dit maintenant, que j'ai travaillé avec Labrousse. Mais je n'ai pas pu faire ma thèse avec Labrousse, ça l'aurait intéressé, mais il est parti à la retraite. Je ne sais pas la date exacte, mais ça doit être à la fin des années 60. Et à ce moment-là, il a très gentiment dit « cherchez-vous un autre patron ».
Mais il a eu quand même, comme étudiant, pratiquement tous les grands historiens de France et de Navarre, et puis un grand nombre de professeurs au Collège de France.
Il a eu quelques professeurs au Collège de France, il a eu dans les grandes universités provinciales aussi, parce que Labrousse ayant fonctionné après 1945 et pratiquement jusqu'aux années 70, ça fait une grande légitimité, en quelque sorte d'encouragement. On lui a d'ailleurs reproché, hein, tout le monde disait qu'il avait trop de gens avec lui, etc. Mais comme vous avez raison de dire que parmi eux, il y a quand même eu de grands esprits. Dans ses cours, il faisait une histoire qui n'était pas ce que l'on dit toujours de ce que faisait Labrousse. C'était plutôt une histoire dont le but était de comprendre le fonctionnement de la société politique démocratique. Et il avait, pendant plusieurs années, pendant que moi je faisais ma licence un petit peu après, il faisait un cours sur les révolutions. Mais il faisait toutes les révolutions de 89, en passant par 1830, 1848, et il terminait sur la Commune. Alors, vous voyez que son idée, là, était pas de faire ce que l'on caricature, c'est-à-dire de dire que c'était un économiste vulgaire qui essayait d'expliquer toute la société par les forces économiques, le développement, etc. Il était professeur d'histoire économique, donc il dirigeait des tas d'études sur les mouvements de production et toutes ces choses qu'il faisait étudier, mais pour lui-même, et ces choses-là sont restées cachées puisqu'elles étaient enregistrées par ce qu'on appelait le centre de documentation universitaire. Nous, moi j'en ai encore chez moi, de temps en temps j'y jette un coup d'œil. C'était beaucoup et très souvent des cours beaucoup plus généraux.
Oui, en fait, c'était son objet, la révolution, d'une certaine manière.
Oui, alors, d'où cette question posée au début, qu'est-ce que les mouvements de pensée pouvaient avoir joué dans cette préparation de la Révolution française, et après, bien
voilà,
entendu.
Voilà, et donc, qui intéressait directement votre thèse.
Voilà, c'est en quelque sorte comme ça que mon sujet l'a intéressé, et qui, au départ, il m'a poussé, et après, Dupron a suivi très très bien. Mais Dupron s'intéressait aussi aux Lumières. À ce moment-là, il y avait eu une espèce de conjonction assez intéressante à l'École des hautes études en sciences sociales, qui était la sixième section transformée par Fernand Braudel, pour reprendre l'étude des Lumières avec les nouvelles méthodes de la sociologie intellectuelle. Donc j'ai été, moi, directement intéressé à ce mouvement-là, parce que François Furet recherchait des plus jeunes pour faire le travail et qu'il fallait bien étudier les choses à différents niveaux de travail dans les archives ou les livres. Donc il a lancé avec Dupont une enquête sur livres et sociétés. Cette enquête qui a été publiée avait pour but de comprendre autrement, mais à partir de la bibliographie historique des livres, ce qui s'était passé dans le mouvement de publication des Lumières. Alors, Furet ne voulait pas du tout démontrer que le livre avait fait la révolution. Son but était de démontrer comment les publications s'étaient orientées diversement à travers le siècle et qu'une partie des révolutionnaires avait évidemment bénéficié de ce grand changement de production intellectuelle.
La diffusion, oui.
Mais la question de l'appropriation de tous ces ouvrages et de leur efficacité directe est évidemment un sujet extrêmement important, mais qui n'a pas une réponse en quelque sorte mécanique. C'est pas parce que vous avez lu Montesquieu que vous devenez un adversaire de la constitution monarchique. Enfin, c'est
évidemment. Je crois qu'il faut dire quand même, c'est le bon moment de dire aux auditeurs, Daniel Roche, que vous êtes également un historien du livre.
Alors, c'est à l'occasion de cette enquête que j'ai participé à l'étude de cette production du livre dans la librairie parisienne à partir de ce que les libraires demandaient d'avoir le droit de publier en obtenant des privilèges ou des permissions tacites, que de mon côté j'ai fait des études locales ou des vérifications d'histoire du livre. Alors l'une de ces études, ça, spécifique, ça a été par exemple l'étude des arts de mourir, et ça me fait plaisir d'évoquer ça parce que c'était plus du tout l'enquête de Dupron-Furet, c'était Pierre Chaunu qui avait lancé à son tour, à la suite des travaux de Michel Vauvel sur les attitudes devant la mort, des recherches sur les différentes façons d'évoquer cette évolution des attitudes, des comportements, des pratiques, etc. Et alors, c'est avec Roger Chartier que nous nous sommes partagés toutes les publications depuis le 15e jusqu'au 19e siècle sur les arts de mourir, c'est-à-dire ce que la librairie européenne a publié pour nous apprendre à bien mourir. Nous en avons bien besoin.
Migrare tu odas, prive la fin.
Daniel Roche, donc vous avez été professeur à Paris Diderot dans le milieu des années 70, puis à Paris 1, et vous étiez professeur à l'Institut européen de Florence. C'est fou ce que vous avez fait quand même.
J'ai d'abord été à Paris 7, et au moment où cette université avait trouvé ses rythmes, etc. Et j'y suis resté de 74 à 78. J'y suis resté 4 ans. C'est pas beaucoup, mais j'avais pas tellement envie d'y rester. Quand l'occasion.
Pourquoi ?
Parce que c'était un milieu extrêmement conflictuel.
Ah.
Les fondateurs du département d'histoire se rangeaient sur des lignes, on va dire, chinoises et cubaines, qui n'étaient pas totalement nécessaires. Et alors, ça créait des difficultés auxquelles pouvait échapper, par exemple, mon ami Michel Perrault, qui, elle, dépassait nettement ça parce qu'elle s'occupait de l'histoire des femmes, parce qu'elle avait... Alors que le spécialiste de la Révolution française était au pied du mur, s'il ne proclamait pas, comme on me l'avait un jour ouvertement demandé, je ne proclamais pas sa solidarité avec l'ensemble des révolutions prolétariennes, ce qui n'avait rien rigoureusement à voir. Enfin, je pouvais être solidaire des révolutions prolétariennes sans avoir pour objectif de démontrer que le passé avait en quelque sorte annoncé notre glorieux 20e et encore plus glorieux 21e siècle. Donc voilà le climat Paris 7. Quand Pierre Goubert est parti à la retraite, on m'a offert de venir à Paris 1, donc je suis venu à Paris 1. Et là, j'ai fait mon boulot d'enseignant, mais malheureusement, j'étais trop bête et j'acceptais trop de tâches administratives. Alors je me suis payé la direction du département d'histoire, j'ai été vice-président de l'université. Au bout d'un moment, j'en ai vraiment eu assez et... Fanette Roche-Pézard, qui faisait sa thèse en Italie, elle en avait encore plus assez parce que ça prenait un temps fou.
Elle était déjà votre épouse alors ?
Oui, depuis 1960.
Et donc c'était une historienne alors, de l'art, c'est un peu pour ça que
voilà,
vous êtes partie à Florence finalement.
Voilà, alors,
vous avez suivi votre femme.
En quelque sorte, c'était l'occasion de lui donner aussi à elle une plus grande facilité pour finir son travail de thèse qu'elle n'avait pas terminé. Mais ce sont les gens de Florence qui sont venus me chercher. Donc j'ai été élu à Florence, il y a eu une élection. Elle avait une particularité que je recommande aux universités françaises, c'est que nous devions faire une leçon suivie de questions devant tous les étudiants de l'établissement. C'était dramatique parce que c'était des étudiants qui arrivaient de tous les pays d'Europe, en majorité d'Allemagne, d'Italie et d'Angleterre, mais je ne parlais quand même pas couramment l'allemand, ni même à ce moment-là, et je ne prétends pas le parler non plus couramment maintenant, l'italien, donc c'était tragique d'être soumis aux questions de... Mais enfin, ça s'était bien passé, donc j'y suis resté 5 ans.
Et vous enseignez quoi là-bas ? La France des Lumières encore ? Non.
Non, j'ai fait un peu de tout. J'ai par exemple consacré 2 années à la culture négociante, c'est-à-dire les rapports entre la culture économique, les pratiques économiques et les pratiques négociantes. J'ai fait aussi un certain nombre de présentations sur les rapports entre le théâtre et le livre, mais tout ça n'a jamais été publié. Si, la culture négociante a été publiée, mais des tas d'autres de ces choses n'ont jamais été publiées. C'est fait pour enseigner.
Enfin, vous avez fait énormément de choses. Vous avez travaillé, par exemple, sur la culture des apparences, l'histoire du vêtement. Mais ça, c'est plutôt...
C'est le retour de Florence.
C'est le retour de Florence. Oui. Et c'est un travail, au fond, sur les rapports de pouvoir. Est-ce que l'habit fait le moine ou pas, d'une certaine manière ?
Oui. Alors ça a commencé à Paris 1. C'est en lien direct avec le fait de bénéficier d'une population étudiante qui n'était pas forcément... à vocation de devenir professeur ou chercheur, mais qui, dans le cadre des études de ce moment-là, faisait ce qu'on appelait le mémoire d'études supérieures, hein, ce qui est devenu le mémoire de maîtrise et ce qui est devenu après le master. Je ne sais pas très bien, moi, ce qu'est le master, mais enfin, c'est cette lignée-là.
C'est la même chose.
Oui, à peu près la même, pas tout à fait, je crois, de l'avis des collègues. Mais le mémoire d'études supérieures exigeait, enfin c'était un des points fondamentaux de tous les enseignants d'histoire de France dans toutes les universités, c'est qu'il devait se faire à base d'archives et non pas à partir de la collation des travaux déjà faits et du compte-rendu du dernier article paru à l'Université du Minnesota. C'était l'inverse, on inversait un petit peu l'attelage.
Il fallait aller à la source.
Donc, il fallait retrouver des sources et, à partir de ces sources, poser autant que possible des questions un peu nouvelles. Alors, les sources à Paris, la grande mine des sources parisiennes, il y en a deux, hein, c'est les sources judiciaires et c'est les sources notariales. Et les étudiants ont accepté de constituer pendant plusieurs années, ça a été vraiment un très grand plaisir de travailler comme cela, des groupes qui posaient à peu près le même type de questions. Mais ce type de questions, on ne peut pas l'élargir à tout dans les archives notariales. Par exemple, on peut difficilement faire de l'histoire du livre dans les archives notariales, parce que les notaires ne notent pas tous les titres des livres.
Et pourtant, il faut quand même les recensions de bibliothèque, non ?
Mais quand elles sont très importantes...
Après décès, quoi.
Ah, oui, quand elles sont très importantes, ils font des recensions complètes. Mais quand elles ne sont pas importantes, ils notent un ouvrage de Monsieur Machin... et puis après, ils passent à la ligne suivante et ils en
d'accord.
mettent 10. Vous voyez, c'est pas une source qui est suffisante. Elle permet d'étudier un certain nombre de choses, mais pas tout. Alors que les catalogues de libraires ou les catalogues justement de bibliothèques, mais établis pour les ventes, alors eux sont beaucoup plus fiables et beaucoup plus intéressants. Alors le problème a été de reprendre autrement les questions de l'histoire sociale de la Beauce, de les reprendre par le biais non pas de la hiérarchie des niveaux de fortune qui commençait à être à peu près connue, mais par le biais des problèmes de la consommation, qui est, comme vous le savez, une forme d'appropriation des choses. Et alors, c'est comme ça que j'ai pu trouver, et je n'aurais jamais pu faire ça tout seul, parce qu'avec ce que représentait le travail d'un professeur dans ces moments-là, si j'avais pas eu ce soutien et cet accord, ça ne se serait pas fait. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la culture des apparences. J'ai pu la rédiger à Florence parce que j'avais des conditions où je pouvais rédiger. Et puis après, j'ai continué avec d'autres problèmes, mais du même type, pendant un certain temps. Je dois ici indiquer quelque chose. Quand je suis parti à Florence et après, à mon retour, la même chose s'est produite, j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Claude Perrault.
Ah oui.
Et Jean-Claude Perrault est un des plus grands historiens de cette période. Et à Paris 1, il était le successeur de Labrousse, puisqu'il a occupé la chaire d'histoire économique de Paris 1 jusqu'à sa retraite. Et nous avons eu une chance assez extraordinaire, c'est de bien nous entendre et de faire des séminaires de maîtrise et de doctorat ensemble. Moi, j'étais plutôt un pragmatiste, lui, il réfléchissait certainement beaucoup plus, il avait une acuité intellectuelle sur des choses que je n'avais pas. Nous n'avions pas tout à fait la même culture, donc ça faisait un bon mélange. Et ça a duré jusqu'à sa retraite, la fin des années 90. C'est un bon système, mais c'est aussi le hasard qui fait que ça marche.
Mais oui. 99, votre leçon inaugurale, Daniel voilà. Roche. Et vous commencez par travailler sur ce que vous annoncez dans cette leçon inaugurale, c'est-à-dire les voyageurs, les voyages. Ce sont vos tout premiers cours.
Alors, d'abord, il m'aura fallu à peu près 2 ans pour traverser la rue Saint-Jacques, ce qui est un record de vitesse dans le domaine du déplacement universitaire. Tout simplement parce que j'ai été élu en 97 et que Monsieur Chirac, président de la République, avait une crampe de la main droite qui lui interdisait de signer l'arrêté de nomination.
Non.
Oui, mais il y a une explication toute simple à ça qui relève de l'histoire événementielle.
Oui.
C'est que nous avions été élus, mon collègue Weinstein et moi, en même temps et sur une même liste présentée à la signature du président. Au cabinet du président de la République, il n'y avait personne pour prendre une paire de ciseaux et distinguer le spécialiste de la Turquie du spécialiste de la France des Lumières. Et pourquoi il aurait fallu les distinguer ? Parce que ce pauvre Weinstein avait eu le tort de parler de génocide arménien, ce qu'on lui a reproché pendant des années, ce qui est une bêtise absolument intellectuelle, absolument
c'était un très grand
terrible, alors que c'était le grand turcologue
oui.
Et tout. Bon, mais tout simplement, ce fait ne passait pas, et ça a retardé d'à peu près 2 ans de notre arrivée oui. définitive ici.
Donc c'était une
intéressant
crampe
parce qu'on crampe politique, oui. Alors, donc la mobilité, la circulation et ces phénomènes-là, je n'en avais pas trop parlé de l'autre côté de la rue Saint-Jacques, mais ici j'étais totalement libre de reprendre mes inventaires, etc. Et je suis parti là lors d'un problème d'histoire du livre, c'est-à-dire de faire l'analyse à peu près exhaustive, comme on peut tenter de la faire avec les sources dont on dispose, des récits de voyage. Et une des idées de cette étude était de montrer que les récits de voyage, c'était très bien, mais que la réalité du voyage ne correspondait pas aux représentations du voyage, qu'il y avait peut-être un écart à mesurer, ce qui était le but du cours et après le but du livre qui en a été tiré. Enfin, c'était cette idée-là, c'est que il y avait des mobilités sociales, il y avait des temps sociaux de la mobilité, dont les récits de voyage ne rendent qu'en partie compte, même s'ils sont absolument indispensables et qu'ils ont une importance considérable pour montrer les échanges culturels et tout cela. Ça, je n'en discute pas. Mais il fallait passer à d'autres formes d'études pour mieux comprendre comment il y avait une mobilité dans une société qui était une société stable, à la fois topographiquement et socialement.
Alors vous qui détestez absolument les petites histoires cloisonnées, les divisions entre la pensée et la pratique, vous commencez un travail très passionnant à partir des relations de l'homme avec le cheval. Et là, on se rend compte au fil de vos ouvrages que le cheval est un point de convergence de toutes les histoires. Sociale, économique, militaire, politique, histoire des mentalités, histoire technique, histoire vestimentaire, évidemment, histoire de la France rurale, comme vous le disiez
oui.
tout à l'heure, histoire culturelle naturellement, histoire du voyage, histoire de la correspondance, enfin que sais-je. Avec cette thématique, au fond, tout est relié. Avec le cheval, vous pénétrez partout, dans tous les milieux et tous les registres du réel et de l'imaginaire, Daniel Roche. C'est formidable, c'est un point de convergence. C'est une idée fabuleuse.
Eh ben, j'ai plaisir à entendre ce constat qui ne correspond pas, je dois l'avouer, dans les comptes de l'éditeur à des ventes absolument extraordinaires. On n'écrit pas, très honnêtement, pour vendre. Là encore, si vous voulez, le livre ne part pas de rien. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs incitations qui sont derrière. La première, c'est que j'ai eu une certaine familiarisation familiale, si je peux dire, avec ces histoires de chevaux. Mon père ayant été dans la cavalerie pendant la Première Guerre mondiale, il n'en parlait jamais, mais ça faisait, si vous voulez, une sorte d'appel de compréhension. Mmh. Ensuite, il y a autre chose, c'est dans les années 90, quand je suis revenu de Florence, le ministère de la Culture m'a demandé de travailler à un projet intellectuel pour reconstruire, rebâtir, remettre en place l'Académie équestre de Versailles. Alors j'ai constitué un comité interministériel regroupant des gens des différents secteurs, l'agriculture, la guerre, tout ce que vous pouvez imaginer. Au terme de 10 ans, on avait donné un projet européen avec l'accord de toutes les écoles d'équitation depuis Vienne jusqu'au Portugal.
Cadre noir.
Nous avions dans le comité un représentant, le général Durand, le représentant du cadre noir. Bon, enfin, tout ça marchait comme rien. Et puis, j'ai appris par un coup de téléphone qu'on avait donné les locaux qui étaient destinés à cet établissement à Bartabas. Et puis ça s'est arrêté là. On ne m'a jamais remercié de ce grand travail. Alors j'ai décidé de me venger intellectuellement. C'est-à-dire, j'ai gardé, si vous voulez, de cette idée, la volonté de promouvoir en quelque sorte une vraie histoire de la culture équestre qui ne soit pas une histoire du spectaculaire équestre.
Voilà. Alors,
il y a ça qui est assez fondamental.
Donc, cette histoire de la culture équestre, elle va du 16e au 19e siècle, c'est-à-dire de la Renaissance à la Belle Époque, hein, c'est ça,
oui,
Daniel Roche?
Oui. Alors là, je suis sorti de mes territoires, évidemment. Je ne suis pas resté dans le 18e siècle ou dans les débuts de la période classique. J'ai volontairement été jusqu'à la guerre de 14, parce que dans cette histoire, c'est la grande rupture, en quelque sorte, des attitudes sociales dans toute l'Europe à l'égard des équidés. Ils sont restés survivants de la guerre dans l'agriculture jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, mais le fait d'avoir perdu, en quelque sorte, le marché militaire dans toute l'Europe et ailleurs, puisque les États-Unis et les autres pays d'Amérique ou bien d'autres suivent la même courbe, le même cheminement, la place des chevaux dans le monde social a été complètement bouleversée. Même si des choses qui avaient été mises en place à la fin de la période persistent, par exemple les courses ou par exemple le cirque et le spectaculaire équestre. Mmh. Donc c'était ça qui était un peu l'enjeu, de montrer comment on était arrivé à une forme de représentation des chevaux qui les plaçait au premier rang de l'ordre animal à côté de l'homme, et comment ça s'était progressivement transformé.
Faut dire, alors, si effectivement vous avez peu de lecteurs, ceux qui passent à côté de ces livres ont absolument tort, parce que c'est formidable. Le cheval est un magnifique observatoire. Il est absolument éclairant sur les relations de l'homme avec l'homme.
C'est un grand révélateur.
C'est-à-dire
que la persistance de l'animal qui est d'abord utilitaire, mais qui ensuite devient distinctive et potentiellement affirmation de pouvoir politico-social, est aussi devenu un instrument de passion et un instrument, en quelque sorte, de gestion des loisirs et de participation aux activités de la représentation la plus élevée de la société, puisque rien que la représentation dans l'art des chevaux mérite une attention toute particulière, puisqu'elle a ses propres canons. Donc sur ces trois, en quelque sorte, axes, on pouvait suivre toute l'évolution de la société européenne. Mais ce qui est assez curieux dans le phénomène de réception de ce travail, c'est que c'est un truc absolument universel. C'est-à-dire, c'est un sujet d'histoire globale. Parce que l'histoire du monde du cheval, qui a été admirablement analysée, par exemple, par les anthropologues, dont Jean-Pierre Digard est le meilleur représentant, cette histoire n'avait pas été faite de cette façon-là, en articulant sur un modèle qui est occidental, mais qui s'est diffusé dans le monde entier. L'histoire des courses, quel est le centre mondial aujourd'hui des courses? C'est Singapour. C'est là où le monde entier joue sur les courses de chevaux à partir de Singapour. Donc, vous voyez, on est en pleine interrogation sur comment on peut, à l'appel de la demande américaine et des historiens qui sont sensibles à cette demande, comment peut se constituer une globalité.
Et puis, sous-jacent, d'ailleurs, une des histoires qui est aussi très intéressante et qui, au fond, court sous le livre, il y a aussi l'histoire de la philosophie, parce que il y a toute l'histoire, en effet, de l'homme, du rapport à l'animalité, de la question de l'homme comme animal, etc. Et d'ailleurs, dans l'Antiquité, il y avait des hommes chevaux, n'est-ce pas,
bien sûr,
Daniel Roche?
Oui, donc... alors c'était là, il y a toute une dimension du travail qui conduisait obligatoirement à interroger l'univers des représentations philosophiques ou autres et des rapports humains différents. Alors, le plus important était d'essayer de se défaire de l'approche unique par l'art équestre. Parce que l'art équestre est une grande tradition de la vie et du rapport aux chevaux, mais elle n'intéresse qu'une minorité, en quelque sorte, de cavaliers, même s'ils sont sans doute d'une certaine manière, ceux qui connaissent le mieux la relation avec une certaine relation avec les animaux. Alors, se défaisant de cette tradition, il n'y avait qu'un moyen, c'est d'en comprendre l'articulation sur le rôle politique et distinctif du rapport du cheval et de l'homme, et de le suivre de la Renaissance à la période des notables, à la période de la société de 1900. À partir de ce moment-là, ce que vous conceviez, ce que vous pouviez voir, ce qui s'est passé dans la réalité des villes et des campagnes de toute l'Europe, c'est qu'on est passé d'une société où le cheval était un instrument de distinction entre les catégories sociales, par l'utilité et par justement l'accès aux formes élevées de l'art équestre.
Et par la possession, hein, parce que, évidemment, plus on avait de chevaux, plus on était riche.
Et plus ils étaient beaux. Plus vous étiez riche, plus ils étaient recherchés. Et ça, c'est très important parce que c'est un des éléments qui fait bouger l'élevage. Parce que vous atteignez là la réalité du monde rural, la plus quotidienne. Donc, vous passiez de cet univers-là à ce que, avec Digard, on appelle la société des notables et des cavaliers des notables, qui fait que le cheval était devenu absolument accessible à tout le monde. Cette utilité et cette distinction ne disparaît pas, mais l'accès et la représentation n'est plus tout à fait le même, en particulier parce que ça devient l'instrument des loisirs, ça devient tout autre chose. Et que reste-t-il de cela aujourd'hui? Eh bien, il ne reste plus que le loisir. Le cheval actuel survit parce que il y a en France 900 000 adhérents de la Fédération française des sports équestres.
C'est beaucoup.
C'est la deuxième fédération après le football. Et ces 900 000 personnes sont des cavalières, à peu près 75%. On est, vous voyez, cette transformation absolue du modèle, puisque pendant les trois siècles que j'ai pu regarder, c'est un instrument de la domination masculine.
Bien sûr.
C'est tout ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, c'est complètement inversé. Donc, c'est avoir une idée de cette grande transformation. J'évoquais tout à l'heure les courses. On peut évoquer le cirque, enfin, ou des choses de ce genre. C'est absolument, enfin, moi, ça me paraît important.
Si vous voulez bien, on dit un petit mot de chacun des trois volumes. Il y a trois volumes, hein. Donc, le premier est paru en 2008. Il est sous-titré L'ombre du cheval. Il fait quand même presque 500 pages, Daniel Roche.
Ils ont tous autour de 450-490 pages.
Alors, L'ombre du cheval.
Et pourquoi L'ombre du cheval? Ben, c'est tout simplement parce qu'il y a un magnifique poème de Ronsard qui envoie une lettre de remerciement à un de ses amis poètes, qui lui a envoyé un portrait de cheval. Mais le poème ne permet pas de savoir à quoi on a affaire. Donc, est-ce que c'est une représentation d'un vrai cheval? Est-ce que c'est un vrai cheval? Est-ce que c'est, vous voyez, on est dans l'ambiguïté absolue.
Donc, L'ombre du cheval, lu par Daniel Roche.
À Monsieur de Belot, conseiller et maître des requêtes de l'Hôtel du Roi. Ami Belot, que l'honneur accompagne, tu m'as donné non un cheval d'Espagne, mais l'ombre vint d'un cheval par écrit, que je comprends seulement en esprit. Je ne le puis ni par les yeux comprendre, ni par la main, il ne se laisse prendre. Chose invisible et fantôme me fuit, ainsi qu'on voit en non songe de nuit se présenter je ne sais quelle image, sans corps, sans main, sans bras et sans visage. Qui ça, qui la revoit haut et bas, plus pour les prendre on élargit les bras, plus on étend les mains et plus nous laisse, béant en l'air après elles qui naissent, ainsi que vent et comme vent s'en vont. Sans plus à l'homme un désir qu'elles font de les happer. Ton cheval, ce me semble, ton cheval non, mais l'ombre leur ressemble, que seulement j'aperçois quand je dors, jeune et gaillard, aux membres beaux et forts. Plus en songeant ton cheval je me donne, plus il me trompe et fuit sur la Garonne. Au crin épars, au jarret souple et prompt, à l'estomac refait, au large front, à la grande queue, à la driante oreille, et hennissant, bien souvent, il m'éveille. Alors, le premier volume est évidemment plus tiré vers les réalités quotidiennes, ordinaires, mais sans vouloir, en quelque sorte, faire un sous-étage économique qui aurait expliqué le reste ou qui serait indispensable. En réalité, les représentations existent dès ce moment-là, dès ce passage-là. Par exemple, si vous prenez le problème de l'évolution de l'élevage, quel a été le principal moteur de la transformation de l'élevage des chevaux sur ces 3 siècles? Il y a d'abord eu le moteur militaire qui a obligé un certain type d'adaptation à ce que l'on a appelé maintenant, ce que l'on appelle maintenant la révolution militaire. On a eu besoin pour la révolution militaire de chevaux appropriés à des usages divers et pas seulement des beaux chevaux de la cavalerie, des officiers, tout ça. Alors ça, c'est un mouvement qu'on peut suivre dans l'élevage.
Bah, il fallait des chevaux qui aillent à la guerre et non pas seulement des chevaux qui montrent la prestance du militaire, évidemment.
La prestance, elle était obtenue encore. Mais si, c'est très très intéressant, par exemple, de savoir qu'il est difficile, on n'a pas d'études sur quelles étaient les origines de tous les chevaux qui venaient à Versailles. C'était le centre de l'art équestre européen, en gros, hein, sans être chauvin, on peut dire que pendant un siècle et demi, ça a exercé une grande influence. Et sur ces chevaux, on ne sait pas si ce sont des Normands, alors il y a un peu de tout, et ça c'est intéressant aussi. Alors la deuxième évolution, c'est qu'évidemment il y a eu, et là les Anglais ont été des instituteurs formidables, les Anglais ont inventé un cheval, parce qu'il n'existait pas à l'origine, ce que l'on appelle le pur sang anglais. C'est entre le XVIIe et le XVIIIe siècle que les grands propriétaires anglais, et non pas les haras comme en France, il y a une opposition totale de culture, oui, là, entre une culture qui est une culture administrative à finalité produire des beaux chevaux pour l'aristocratie et pour l'armée, et une culture qui est une culture d'aristocratie, mais que le roi laisse totalement libre, et qui ont fabriqué, à partir de racines orientales et aussi italiennes, parce qu'ils achetaient beaucoup des chevaux orientaux qui étaient passés par l'Italie, dès le 15e, 16e siècle. Ça s'est fait sur 3 siècles, et on a fabriqué le pur sang. Il faut vraiment faire un effort pour comprendre que toute l'aristocratie européenne vivait dans l'idée que le beau cheval devait être carré, devait être capable de se rassembler sur lui-même. Et les premiers pur sang qui sont arrivés en France ont fait rigoler tout le monde.
Pourquoi ?
Parce que c'était des chevaux qui étaient longs, qui étaient taillés pour la course et la vitesse, et pas du tout pour les arts relevés, les airs principaux des manèges que l'on pensait pouvoir s'adapter à.
Donc les gens ont trouvé ça moche ?
Ah ben, c'est pas qu'ils ont trouvé ça moche, ils ont boudé. Il y a eu un grand travail qui a été fait là-dessus par Nicole de Blomac. Ils ont boudé les chevaux anglais et ils ne les ont pas voulu. Il aura fallu après un siècle et demi pour accepter ce que maintenant on considère comme le seul cheval qu'on connaît. La plupart des gens ne voient jamais que ce cheval-là à la télévision ou dans les reproductions du Parisien.
Alors, donc, le deuxième volume est paru en 2011. Il s'appelait La gloire et la puissance. Et en 2015, le troisième volume, Connaissant ses passions, alors c'est un volume très riche, dans lequel, par exemple, vous montrez les mythes et les légendes autour des chevaux, Daniel Roche. Et puis, il y a toutes sortes de légendes, évidemment, autour des chevaux qui sont très belles et dont vous parlez
oui,
dans ce
et
livre.
Dont la plus belle est cette image qui dans l'art continue à s'entretenir. Il suffit de voir la statue de César là au carrefour des petits champs. C'est cette image que le rapport de l'homme et du cheval s'identifie avec le centaure. Elle remonte à la plus haute antiquité. Elle fait partie d'une tradition d'éducation. Et c'est parce que les centaures étaient un peuple très compliqué dans la mythologie. Il y avait les mauvais, les méchants centaures. Mais quand ils étaient du côté des bons, ils donnaient d'excellents pédagogues. Et Chiron été le pédagogue d'Achille et dans
la Patrocle aussi d'ailleurs.
Dans des deux copains. Et la tradition fait que devenir un centaure était en quelque sorte une sorte de modèle d'union de la capacité d'énergie contrôlée pour l'animal et en même temps de l'intelligence qu'exprimait cette capacité à contenir les animaux. Donc ça, c'est un des plus beaux mythes de la civilisation occidentale. Mais avec extrêmement compliqué parce qu'il descendait très bas dans les couches populaires. Il y a eu tout un folklore avec des fêtes, des centaures. Ça a été une des études de Dumézil ici qui a laissé un livre sur les centaures. Oui, il faut voir les notes de ce chapitre.
Quand même aussi dire que vos étudiants vous ont offert un livre d'hommage en 2011 qui s'appelle « La grande chevauchée, faire de l'histoire avec Daniel Roche ». C'est paru chez Drose.
Oui.
« Promenade à cheval à travers l'histoire ». En oui. compagnie de Daniel Roche.
Il ne faut pas croire, mais je ne suis pas un très bon cavalier.
Juste par curiosité et pour terminer cet entretien, Daniel Roche, quelle est la représentation du cheval que vous préférez?
Mais moi, j'ai une sympathie pour le cheval de travail. Le deuxième, c'est moi qui l'ai choisi aussi, le deuxième volume est illustré par le petit Juan Carlos, l'infant d'Espagne, qui a, au lieu d'avoir un cheval justement élégant et très classique, si on y fait très attention, c'est une espèce de grosse bête, de gros poney un peu bizarre, et ça me plaît beaucoup, ce contraste là entre ce qui aurait dû être un type d'aminal mais qui ne l'est pas.
Daniel Roche, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien.
Merci.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Daniel Roche, professeur honoraire, titulaire de la chaire d'histoire de la France des Lumières. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France, et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain pour entendre un entretien avec Michael Edwards, titulaire de la chaire d'études de la création littéraire en langue anglaise. Belle journée à tous. À l'écoute de France Culture. Thank you.